juste pour dire que les motocyclistes, on a trouvé que pour eux, c'est mieux de faire des tournées qui finissent là où ils commencent. Donc, vous avez entendu, le motocycliste dit, on va faire des routes à travers le Canada. Donc, c'est pas nécessairement que les motocyclistes vont être obligés d'aller de Vancouver à Halifax. Sans doute, il y en a quelques-uns qui vont le faire. Mais normalement, ils vont faire, à l'intérieur d'un territoire, ils vont faire, disons, ils vont avoir un circuit dans le district Saint-Laurent. Ils vont faire tout ça. Puis, donc, ils trouvent que c'est mieux pour eux autres parce que c'est quand même pas aussi évident de transporter une moto aussi. Une moto en avion comme ça. Un bicycle qu'on peut mettre dans une boîte. Puis on... Donc, juste, mais gardez-vous au courant, ça s'en vient. Alors, ce matin, c'est... Quand j'étais cédulé de prêcher, on a échangé ça avec le dimanche passé, puis quand on a switché ça pour ce dimanche-ci, le pasteur m'a assuré qu'il faut absolument amener un message sur le thème de la fête des mères. Et donc, c'est pas difficile. Hein? Vous savez que ça fait, au fil des siècles, on trouve il y a différents événements, différentes cultures qui ont trouvé une façon de fêter la maternité. Et dans l'Antiquité, déjà, dans les temps romains, puis même avant ça, on trouve qu'il y a des cérémonies, il y a eu des cérémonies pour fêter les mères très fécondes. Et c'est heureusement qu'ils n'ont pas fait ça au Québec dans le temps. Ça serait difficile d'avoir une compétition pour ça. Hein? Je me rappelle le temps qu'il y avait des familles de 27, 17. Hein? Mais même, c'était comme ça, et différents villages faisaient ça, même jusque dans les temps modernes. Mais la fête des mères, comme une fête, comme une fête congé officielle, ça date, en réalité, le début de ça, ça date d'il y a 100 ans. En 1912, c'était la première, c'était l'État de Texas qui, le gouverneur a établi ça, et en 1913, c'était en Pennsylvanie que l'État a déclaré ça, puis rapidement, ça a fait une fête nationale aux États-Unis, puis ça s'est répandu dans le monde entier, qu'il y en a. C'est pas toujours le deuxième dimanche de mai. C'est intéressant que certains pays ont fixé d'autres dates pour célébrer, mais quand même, partout dans le monde, on trouve de plus en plus, il y a une reconnaissance qu'on va s'arrêter et honorer les mamans, la maternité, tout ce que ça représente. Donc, nous qui croyons bibliquement, on n'est pas laissé quand même sans incident pour qu'on puisse être reconnaissant pour nos parents et surtout pour nos mères. Et ce matin, le texte de tremplin pour moi, c'est justement dans le Décalogue, les 10 commandements, Exode 20, le premier des commandements pour nous, après on a 4 qui parlent de notre relation avec Dieu. Le premier qui touche les relations humaines, touche les relations enfants-parents. Et c'est intéressant. Exode 22, honore ton père et ta mère, et afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Voilà. Le premier des règlements qui parle des relations humaines, c'est dans le contexte familial et le devoir des enfants envers les parents et de les honorer. Et c'est ça que je veux explorer avec vous ce matin. Donc, je vous invite d'abord qu'on puisse courber nos têtes et nos cœurs afin que le Seigneur puisse parler ce matin et nous amener un peu plus de lumière. Père Céleste, nous nous réjouissons de faire partie de ta famille sur terre. Nous te louons, Seigneur, parce que cette image de famille qui est beaucoup empruntée pour nous expliquer c'est quoi le royaume de Dieu dans sa manifestation dans l'Église, nous pousse à réfléchir sur ce que la famille terrestre devrait être aussi. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons ouvrir nos cœurs et nos oreilles et nous te demandons de nous parler. Prends le message de ton serviteur, si tu veux. Prends des textes bibliques, prends quelque chose qui a été dit ou partagé pour nous adresser la parole individuellement ce matin. Nous sommes là en tant que ta communauté. Mais en tant qu'individus dans cette communauté, nous avons tous besoin d'entendre ta voix là où elle intercepte notre vie, pour qu'elle nous interpelle ce matin. Jésus, nous voulons t'entendre. Esprit Saint, dégage tout ce qui bloque notre entendement de cœur, afin que notre attention soit tout entière à la voix de notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Dans la parole de Dieu, nous trouvons plusieurs choses face à cet appel d'honorer notre mère. Donc, je laisse de côté leur père pour le moment. Dans ce commandement, au mois de juin, on aura le temps de revenir là-dessus. Hein. Mais, premièrement, on est appelé à honorer celle qui nous a donné vie, qui nous a mis au monde, ou celle qui a joué ce rôle de nous nourrir, nous emmener, parce que c'est un rôle très important. C'est un rôle très important de côté pratique. Hein? Et on voit en 1 Thessaloniciens 2, 7, on le voit que même l'apôtre Paul fait référence à ce rôle pratique d'une mère pour expliquer ses sentiments par rapport à son rôle d'apôtre. Il dit, alors même qu'en tant qu'apôtre de Christ, nous aurions pu vous imposer notre autorité. Hein? Ils ont eu le droit en tant qu'apôtre. Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été plein de tendresse, comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. Donc ici, on voit un des côtés pratiques d'une mère. C'est elle qui est principalement responsable de nourrir, de prendre soin de ses enfants. Et malgré tous les développements et les tendances de notre époque postmoderne, si on se tient tel que nous sommes créés devant le monde, on peut dire que la mère est elle qui est équipée pour nourrir. OK? Ça va? Bon. Il y a une mère qui nourrit, elle sait ce que je veux. Mais quand même, ça nous montre un des rôles pratiques. Un des autres rôles pratiques aussi, comme c'est Ésaïe 66, 13, dit « Comme un enfant que sa mère console, je vous consolerai. » Voilà Dieu qui parle à son peuple. Encore, il prend l'exemple d'un rôle très pratique. Hein? Qui d'entre nous n'a pas connu, hein? Lorsqu'on est tombé puis on a blessé notre genou, qui était là pour nous consoler, hein? Donne une petite bec, hein? Mettre de l'onguent là-dessus. Ça va, continue. Hein? Comme une mère qui console, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Donc, nourrir, consoler, hein? Combien de fois? Je ne sais pas que vous avez eu le privilège d'avoir une mère qui savait vous consoler. Pour moi, c'est un des souvenirs plus précieux de ma mère. Elle avait beaucoup d'autres préoccupations, mais elle était vite repérée lorsque j'étais dans le désarroi. Elle avait l'œil qui voyait tout. « Michael, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle ne disait pas comme ça quand elle voulait me consoler. Mais quand même, elle était capable de m'arrêter. Un troisième proverbe 1:8. « Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère. » Voilà. Un rôle très, très important dans la pratique, d'instruire, de communiquer à la génération qui nous est donnée comment vivre, comment s'équiper pour la vie. Voilà, nourrir, consoler, instruire. Trois grands rôles qui sont très importants, archi importants si nous serons capables de se préparer d'entrer dans la société et prendre notre place nous-mêmes. Et ces rôles sont reliés à leur rôle maternel. La mère dans la nature, et je sais qu'on vit dans la fin des temps, qu'on voit qu'on est tellement dénaturalisé. Et ce qu'on entend dans les nouvelles, on voit combien on est dénaturalisé. Mais le rôle naturel donné à maman, cet instinct maternel, se voit réellement quand on voit le roi Salomon qui, sa première preuve que Dieu lui avait donné la sagesse, c'était quoi? Il fallait qu'il tranche entre deux femmes, deux mères. Deux prostituées, chacune a eu un enfant, l'une près de l'autre. Elles vivaient ensemble. Et une nuit, une des mères a roulé sur son enfant et elle a souffré. Puis l'autre était encore endormie, elle a changé les bébés. Donc ça dit que le bébé était assez jeune que c'est difficile à distinguer. Mais le lendemain, la maman se lève et il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc les deux femmes se sont présentées devant le roi et ont présenté leur cas. Et chacun dit, non, c'est mon enfant, la mort qui était. Et on sait ce que la Salomon a dit. Emmène-moi une épée. On va les trancher en deux, chacun aura sa part. C'est sage. Et on veut tirer, mais on tire. Mais là, il a fait ça parce qu'il savait que l'instinct maternel entre en jeu. Et l'instinct maternel, la maman a dit non, 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 laisse l'enfant vivre, tiens-le l'enfant. Parce que ouais, l'instinct maternel est prêt à tout sacrifier pour la vie de son enfant. Et pour ça que je dis, on vit dans un état dénaturalisé que les gens tuent leurs propres enfants à cause de leur chagrin. On ne pense qu'à nous-mêmes. On est dans un état où on perd même nos instincts donnés par Dieu. Mais cet instinct maternel a été reconnu dans notre société avant qu'on change. Je me rappelle mes premières images, je pensais à ce message ce matin, l'image m'est venue que, étant enfant de militaire, pour moi, une des cérémonies les plus sombres et plus sobres chaque année, c'était le jour des souvenirs. Et lorsqu'on avait une télévision, on pouvait voir la cérémonie nationale à Ottawa. Puis chaque année, il y a une mère, on appelle la mère de la croix d'argent. Une mère qui a perdu des enfants. Donc, pour vous dire combien je suis âgé, quand j'ai commencé à voir ça, il y avait des mères qui avaient perdu 5 enfants dans la guerre. Wow! Je commence à dire, oh, ça se tue. Dans la Deuxième Guerre mondiale, mais peut-être il y avait encore des personnes qui vivaient de la Première Guerre mondiale. Les gens ont perdu toute leur famille entière dans les guerres. C'est un sacrifice énorme. Une mère, pour laisser son enfant aller et mourir. Donc, le pays savait reconnaître ça. En 2007, j'ai accompagné ma sœur qui a aussi perdu son enfant en Afghanistan. Mais là, on est rendu avec les mères qui ont perdu juste un enfant. Mais je dis, quand même, on avait, il y a encore un peu de traces de ça aujourd'hui, qu'on en a cet instinct maternel. Le fait qu'il donne, que c'est un sacrifice qu'on donne aux enfants pour leur pays. Et le pays a su reconnaître ce sacrifice. Donc, c'est une chose qui est naturelle dans un moment, très importante. Et on sait que dans les jugements, quand Dieu a annoncé des jugements à son peuple, il dit, le jugement, ça va être si terrible que même les mamans vont manger leurs enfants. Ça montrerait au peuple à quel point le jugement de Dieu peut être terrible. Et on devrait éviter d'aller dans la voie du péché, parce que là, ce qui est naturel va dénaturaliser complètement. Donc, ça a du sens parce qu'il y a une réalité, un arrière-plan des choses que Dieu a créées en nous, qui donne le relief à ça. Aussi, ce rôle maternel, on le voit dans le côté figuratif aussi. En Jacques 5, verset 7, « Les villes d'Israël étaient abandonnées. » La vie avait cessé, alors juge, Déborah, je suis intervenu comme une mère pour Israël. Voici le seul juge féminin dans le temps des juges. Et beaucoup des autres juges sont venus comme un peu des guerriers. Mais on voit, beaucoup parlent de le rôle de Déborah parce qu'elle était une prophétesse et elle avait un circuit de jugement. Et donc, elle a dit, c'est moi, je suis comme une mère en Israël, je prends soin, je donne la nourriture au peuple. Très intéressant, son rôle de leadership reflétait aussi ce caractère de mère. Genèse 1, 2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Même dans la création du monde, on voit que Dieu lui-même, ça, c'est le premier des versets, mais on a beaucoup de versets dans la Bible qui nous parlent de le rôle du Saint-Esprit, c'est un peu comme le rôle d'une mère. La nature du Saint-Esprit dans la Trinité, c'est ce rôle de nourrir et de couver. Et voilà, en Genèse 2, C'est comme le Saint-Esprit couvrait la création qui était dans le chaos avant que Dieu ressorte de le chaos ce qui est structuré. Alors, le rôle d'une mère, c'est très important. Ça, c'est une bonne raison d'honorer nos mères. Mais c'est pas le seul. L'impact d'une mère, deuxièmement, a de longue portée. L'impact d'une mère a de longue portée. Psaume 131:2 nous dit, bien au contraire, je suis resté tranquille dans le calme et je me sentais comme un nourrisson. Ça, c'est le psalmiste, c'est devant tout le brouhaha, toutes les choses qui bardassent la vie. Il dit, au contraire, j'étais resté tranquille. Je sentais comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère, comme un nourrisson apaisé. Et cette image est intéressante, ok? On a l'enfant qui se nourrit et sa préoccupation, c'est de téter. Maintenant, le nourrisson, c'est quelqu'un qui a fini de nourrir. Mais il trouve toujours cette paix. Il a appris que dans les bras de sa mère, il y a un repos, il y a de sécurité. Et voici l'image du psalmiste qui dit, je suis comme ça en Dieu. Et voilà mon image. Mais voici une mère qui réalise, une mère qui est le confort pour ses enfants, qui est capable par sa présence et sa colère de calmer le cœur. C'est une puissance, un impact qui reste dans beaucoup de cœurs. C'est intéressant avec le Facebook, aujourd'hui on a toutes sortes de monde qui poste, c'est la fête des mères, on voit toutes sortes d'idées, surtout dans ma famille, on a beaucoup d'entre nous, on a perdu notre mère, et celles qui me postent ça parce que leur mère est partie, mais ils ont toujours une pensée pour leur mère, et ça reflète ça, les expériences de notre mère qui étaient d'ordre doux, calmant, rassurant. Heureux les personnes qui ont connu une mère comme ça. Ézéchiel 16, 44. Voici tous ceux qui aiment citer les proverbes, t'appliquent le dicton « telle mère, telle fille ». Voilà un dicton. Ça nous dit la puissance de l'influence d'une mère. On va se reproduire dans nos filles. Et c'est vrai, nos enfants nous imitent. Nos enfants vont devenir ce que nous sommes, ce que nous comporte. Notre comportement est certain, ça va pour le bien comme pour le mal. Mais heureusement, le Seigneur peut nous faire ôter le mal. Il peut changer l'influence, mais quand même, ça nous montre l'importance. Ça nous montre l'impact à longue durée. L'impact que nous avons, c'est à longue durée. Et pour moi, le plus grand exemple de ça, vous savez, c'est Jochebed, la mère de Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Moïse est né dans une époque où ça a été contre la loi pour que les femmes israélites laissent en vie un enfant masculin. Ils étaient appelés à l'exposer. C'est une façon qu'on ne voulait pas un enfant, on le touche pas, puis ça va mourir dans l'espace de quelques temps. Mais la Bible nous dit que Jochebed, à part de les femmes, beaucoup des femmes israélites n'ont pas obéi à des idées de Pharaon, quand même, certaines, il semble, c'est devenu ça pour que la Bible nous dit, elle a trouvé son enfant beau. C'est une expression, j'ai trouvé. Elle, en réalité, elle a vu dans son enfant Moïse l'envoyé de Dieu pour son peuple. Donc, elle n'a pas pu obéir. Elle a pris soin. Elle a pris soin même lorsqu'elle devait l'exposer. Elle montre à quel point la loi était là. Elle, à un moment donné, il fallait qu'elle l'expose. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'expose d'une façon que la fille de Pharaon la trouve. Vous la trouvez ça entre les lignes. Okay? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un genre de panier, elle a bitumé. Donc, elle a fait un petit bateau, un crèche-bateau. Elle est allée le mettre là, dans le fleuve où la fille de Pharaon descendait pour se baigner. C'est pas un hasard. Et la sœur de Moïse était là pour guetter ce qui arriverait. Et lorsque la fille de Pharaon a trouvé le bébé, elle était touchée. Qui ne peut pas être touché par un petit bébé? C'est charmant. Elle savait que c'était un bébé hébreu. Elle n'a pas dit un hébreu. Non. Parce que le charme d'un nouveau-né, c'est intéressant. Hein? Si vous voulez, on cherche toutes les manières, juste d'un à côté, on cherche toutes les manières de briser la glace ou faire changer du monde. Hein? On frappe à la porte, il ne veut pas rien savoir, on ne veut pas parler, mais promenez-vous avec un bébé dans vos bras. Les gens vont vous trouver. Hein? Comme grand-papa, j'avais un de mes petits-enfants sur moi, puis j'allais, les gens, c'est partout. Si un bébé ne marche pas, prendre le chien, ça va marcher. Mais un petit bébé dans sa charme, ça fait rire, ça fait sourire, ça ouvre. Et voilà, la fille de Pharaon était touchée. Et tout de suite, Myriam était là pour suggérer qu'elle cherche une nourrice, hein, une femme pour nourrir, parce qu'il fallait, hein, on n'avait pas le lait au dépanneur, là. La seule façon de nourrir ses nouveau-nés, c'est de trouver une femme qui peut le nourrir. Une femme qui avait eu un enfant, qui a du lait. Et qui est-ce qu'elle a cherché? Elle a cherché sa mère. La fille de Pharaon n'était pas innocente là-dedans, elle savait. Jochebed avait Moïse tout le temps qu'elle l'était. Donc, il les allaitait pour 3 ans et demi. OK? 3 ans et demi. C'est pas long, on peut dire. C'est pas long. Mais lisez dans la Bible. Lorsque Moïse avait 40 ans, il s'est souvenu qui il était. Il est allé sortir pour voir son peuple. Lui, élevé comme le fils de Pharaon, éduqué dans toute l'éducation de l'Orient, en classe avec tous les princes de tous les royaumes autour de Méditerranée. Mais lui, il s'est souvenu qu'il était juif, hébreu, choisi pour libérer son peuple. Où est-ce qu'il a appris ça? Au sein de sa mère. Au genou de sa mère. Donc, l'instruction, l'impact à long terme d'une mère, il ne faut pas l'escompter, il ne faut pas le minimiser. Elle ne l'avait que 3 ans et demi au max. Puis, il était imprimé avec son identité. C'est pas surprenant. Les années préscolaires sont les années les plus importantes. Et je sais qu'on a le défi dans notre époque où on est obligé de travailler tous les deux, mais mes chers amis, pour ceux qui sont trop occupés, il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'élever vos enfants et les imprimer leur identité. C'est très important, être mère, d'avoir cet impact. L'impact est à longue durée. L'impact spirituel aussi. Quand Paul et Silas sont revenus, une deuxième voyage missionnaire, ils ont revenu à Derbe, ils ont trouvé un disciple nommé Timothée, un jeune homme. Mais un jeune homme tellement en flamme avec le Seigneur que les disciples dans plusieurs églises l'ont recommandé à Paul comme un disciple, comme un assistant. Quel est le secret? On trouve ça lorsque Paul écrit à Timothée. 2 Timothée 1, 5. Je garde le souvenir de la foi, ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà dans ta grand-mère, Loïs, et dans ta mère, Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. Voilà l'impact à longue durée le plus important d'une mère. C'est l'impact spirituel. Et c'est très important. C'est pas sans signification pour chez les Juifs. Si vous êtes allé être considéré un Juif, il fallait que ta mère soit juive. Intéressant, hein? L'influence d'une mère. L'impact à longue durée. J'ai trouvé ce texte que je vais vous lire il y a quelque temps et je trouvais ça assez intéressant que je l'ai repris pour aujourd'hui. Donc, je vais vous lire ça pour, je n'ai pas mémorisé, hein. C'est un sujet des mamans, on peut dire des grands-mamans et des arrière-grands-mamans aussi. Renouvellement de permis. Il y avait une femme appelée Émilie qui s'était présentée pour le renouvellement de son permis de conduire. La préposée l'a demandé d'indiquer son métier. Et Émilie hésitait. pas du tout certaine comment décrire ce qu'elle faisait. Ce que je veux dire, dit la préposée, avez-vous un travail? Qu'êtes-vous seulement? Puis Emily la coupe est troute. Bien sûr, j'ai un travail. Je suis une maman. Nous n'inscrivons pas mère comme métier, dit le madame. Femme de ménage, ça l'a décrit. Et s'en allait. Et l'auteur a dit, j'avais complètement oublié cet événement. Jusqu'au moment que moi, je devrais faire pareil. Et je me suis présenté à un poste de police local. Les préposés étant trouvés, de toute évidence, une femme de carrière, assurée d'elle-même, efficace et portant de longs titres officiels comme l'interrogatrice officielle ou chef des services d'inscription, quelque chose comme ça. « C'est quoi votre métier? » Elle sondait. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. Les mots sont jaillis de ma bouche. Je suis un associé à la recherche dans le domaine du développement d'enfance et des relations humaines. » La préposée s'est arrêtée, son stylo figé dans l'air. Elle m'a regardé comme si elle ne m'a pas entendu comme il fallait. Je l'ai répété une fois de plus lentement, mettant l'emphase sur les mots les plus significatifs. Puis j'ai regardé dans l'émerveillement lorsque ma déclaration a été écrite en langue foncée sur le questionnaire officiel. Puis demandé, a dit le préposé, maintenant avec intérêt, vous faites exactement quoi dans ce domaine? Sans hésiter, dans une voix sans trépidation, je m'entendais répondre. J'ai un programme de continu de recherche. Quel moment n'en a pas? De laboratoire, dans le laboratoire et dans le champ d'essai. Normalement, j'aurais dit à l'intérieur et à l'extérieur. Je travaille en vue d'une maîtrise, toute la famille. Et déjà 4 crédits. 2 fils et 2 filles. Bien sûr, le travail est parmi les plus exigeants des sciences humaines. Y a-t-il une maman qui n'est pas d'accord? Et je travaille souvent 14 heures par jour. 24 heures pour dire vrai, là. Et voilà. Cependant, le travail est beaucoup plus défiant que la plupart des métiers et les récompenses sont plus axées sur la satisfaction que de l'argent. Il y avait un ton de respect augmenté dans la voix de la fille. Pendant qu'elle complétait le formulaire, ensuite, elle s'est levée et m'accompagnait jusqu'à la porte. Lorsque je suis arrivé à la maison, flottant à la pensée de nouvelles descriptions de mon travail, j'étais accueilli par mes assistants au laboratoire, âgés de 10, 9 et 8 ans. Je pouvais entendre mon modèle expérimental dans le programme de développement d'enfance, une petite fille de 2 ans, essayant de nouveaux bruits dans sa chambre. Je me sentais avoir triomphé sur la bureaucratie. En plus, j'ai été inscrit dans les registres officiels comme quelqu'un plus distingué et plus utile à l'humanité que juste une autre maman. La maternité, quelle carrière glorieuse, tout spécialement lorsqu'il y a un titre sur la porte. Voilà. Des impacts à long terme. Troisièmement, comment donc honorer notre maman? La parole de Dieu nous parle des enfants qui font l'honneur. J'aime les proverbes et la plupart de ce que je vais vous donner maintenant, ça va être des proverbes. Mais voilà plusieurs, j'en ai 5 proverbes qui parlent ce qui fait l'honneur. Comment honorer? C'est bien de donner des fleurs et des bonbons et des cartes. Mais comment est-ce qu'on puisse vraiment honorer? Proverbe 10:1. Un fils qui a de la sagesse fait le bonheur à son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Donc ici, il faut reconnaître un parallélisme hébreu, OK? Ce qui est vrai Ils disent d'une manière, ils disent d'une autre. Donc, on voit que c'est pour les deux parents. Donc, si on veut faire honneur à notre mère, il faut faire preuve de sagesse dans la vie. Hein? Quelle mère va être contente? Voici, les gens disent, voici quelqu'un de stupide. Il dit, ma mère, c'est mon enfant. Ah, oh, voici quelqu'un qui est sage. Elle est fière, OK? Proverbe 15, 20. Un fils sage fait la joie de son père. Seul un homme insensé a du mépris pour sa mère. Alors voilà, on voit comme se manifeste l'insensibilité, c'est qu'on, même on méprise notre mère. Donc, je vois dans l'autre sens, la sagesse, ça va nous apprendre à honorer, à prendre avec du respect nos parents. C'est pas la même chose d'être d'accord avec tout ce qu'elle fait, elle est et ce qu'elle a fait. Honorer quelqu'un, ça cherche d'avoir les places où on peut parler de la vérité de la vie de la personne et la respecter pour ça. Proverbe 23, 22. Écoute ton père qui t'a donné la vie et ne méprise pas ta mère devenue âgée. OK, voilà les enfants un peu plus jeunes que moi. Moi, j'ai pas de mère. Mais donc, on a des mères âgées. Est-ce qu'on est capable de l'honorer et ne pas mépriser? Avec raison, on est obligé d'avoir des annonces contre l'abus des aînés. Hein? Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de mépris pour les personnes âgées. Hein? Tasse-toi, le vieux. T'es plus utile. Hein? Je suis pas très abusif au volant, mais parfois j'ai l'expression de dire « Tasse-toi, grand-père. » Dans l'indicité, « Grand-père, toi-même. » 11 fois par-dessus de ça. Donc, OK. Je trouve une autre expression pour les gens qui sont plus vieux que moi. mais ça sort dans le langage. On a l'habitude de dénigrer des gens pour toutes sortes de raisons. Mais le mépris et l'abus, ça va au-delà de cela. Donc, la capacité d'écouter, de respecter. Et on sait que c'est défiant. Mon père, il a 91 ans. Et dans une conversation, il est en ses facultés, il est en propre possession de ses facultés, mais même à cet âge-là, il se répète. Donc, le respect, c'est de l'écouter, de ne pas le rappeler qu'il est en train de se répéter. Il faut prendre, Seigneur, si je dois l'écouter encore 4 fois, là, je vais le faire. Mais quelle est sa place? Et je suis en train de sonder ce que ça veut dire quand on a parfois des parents qui commencent à perdre leur faculté, perdre leur point d'observation. Et ça fait partie de ça. À tous les âges, on peut honorer, hein, vous voyez? Proverbe 23, 25. Puisse ton père et ta mère se réjouir à ton sujet. Donne cette joie à celle qui t'a mis au monde. Oh, réussir dans la vie. Fais ce qui est correct et bon. Fais réjouir ta maman de ta vie, de votre vie. Voici une façon d'honorer. Attention à comment. Je vis parce que ça va avoir un impact sur celle qui m'a mis au monde, celle qui m'aime par-dessus tout le restant du monde. Hein? Un dernier. Proverbe 31, versets 27 et 28, on parle de la femme qu'on donne les éloges. Hein? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, et son mari se lève, lui donne des louanges. Mes chers amis, voilà le mandat pour la fête des mères. Hein? C'est triste qu'on doit avoir un mandat pour le faire, qu'on ne le fait pas naturellement. Qu'on se lève et qu'on honore publiquement celle qui nous a mis au monde. Ça, c'est quelque chose. C'est très rare qu'une maman reçoive les accolades publiques de la part de ses enfants pour tout ce qu'elle a fait. Il y a certaines mamans qui n'ont jamais eu ça. Imaginez-vous l'impact que ça pourrait avoir. Souvent, on va aux funérailles, puis on découvre les choses sur une personne. C'est bien quand c'est un étranger. J'étais aux funérailles de ma tante qui est mariée à mon oncle. C'est juste dans les dernières années qu'on commence à connaître. Donc, j'ai découvert un paquet de choses sur elle. Mais c'est triste quand on connaît la personne et c'est le seul, on attend jusqu'à sa mort pour dire des bonnes choses sur elle. Mes chers amis, c'est trop tard pour elle dans cette vie. Et en réfléchissant à ça, j'ai dit, notre famille, on est tellement éparpillés. On est cinq enfants dans notre famille, puis l'an passé, à l'occasion de le 90e anniversaire de mon père, j'ai dit à mes enfants, mes frères et sœurs, il nous faut une réunion familiale. On a eu juste une dans toutes les années depuis qu'on a quitté le nid familial, que tous les enfants étaient là. On a essayé d'avoir une, mais ma sœur manquait, et c'est deux semaines après, avant la mort de ma mère. Donc, pour mon père, j'ai leur dit, on va faire une fête, mais on va lui dire, l'autre de son vivant, ce qu'on dirait devant son cercueil. C'est bon qu'il l'entende de notre part. Et c'est important, si vous connaissez notre relation avec notre père, c'est important. Mais je vous dis, ça a été quelque chose de spécial. Très spécial. Parce que j'ai un frère dans l'Australie, les enfants sont partout, mais on était là, la surprise. Mais de l'honorer de son vivant. Et ça a fait du bien à toute la compagnie de ceux qui étaient rassemblés. Je pense qu'il y a certains qui sont rentrés chez eux pour faire quelque chose. Donc c'était quelque chose de spécial de se lever et de son vivant de lui dire ce qu'elle vaut pour nous. Il y a des proverbes qui parlent des enfants qui font honte aussi. Et je vois qu'on peut trouver des leçons. En ne pas faisant cela, on peut honorer notre mère. Hein. Rapidement. Celui qui maltraite et chasse sa mère est un fils qui se couvre de honte et d'opprobre. Proverbe 20:20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère. Ouh! Allez, maudit! Il s'éteindra dans les ténèbres, plein de ténèbres. Proverbe 28:24. Celui qui dépouille son père et sa mère, qui prétend ce qui n'est pas un péché, est compagnon de celui qui détruit. On sait que dans le temps de Jésus, même, ils ont rendu ça un acte religieux. Jésus était obligé de reprendre les gens parce qu'il dit, les choses que vous devez donner à vos parents, vous avez dit, papa et maman, gardez. On donne une carte avec un cadeau. L'argent qu'on devrait vous donner pour votre nourriture, on l'a donné aux orphelins en Afrique. On l'a donné à une œuvre charitable. Tu dois être clair. Vous allez crever de faim, mais pensez à ça. C'est ça qu'il dit. Jésus dit, vous donnez ce que vous devez pour soutenir vos parents, parce que les autres, dans le temps de Jésus, ils n'avaient pas le bien-être social, ils n'avaient pas la pension de vieillesse. Les enfants devraient pourvoir à leurs parents. Puis il dit, vous faites ça, vous donnez, c'est, papa et maman, ce qu'on devait vous donner, c'est corban. Ça veut dire, c'est donné à Dieu. C'est pas possible de voler, de prendre. Donc, c'est une façon de déshonorer. Même une vie indisciplinée. Proverbe 29, les coups de bâton, les réprimandes produisent la sagesse. Mais un enfant livré à lui-même fera la honte de sa mère. Le manque de discipline dans nos vies personnelles, le manque de capacité de se priver de notre libre arbitre pour le bien-être des autres, c'est une honte, ça reflète mal. La bonté, le sacrifice de notre mère envers nous devrait se produire dans notre vie pour les autres, ça va le faire honneur. Et un dernier, il y a des gens qui maudissent leur père et leur mère, qui n'ont pas de reconnaissance, maudissent leur père et n'ont pas de reconnaissance pour leur mère. Donc, c'est tragique qu'il nous faut une journée officielle pour honorer nos mères, mais si c'est le minimum et on le respecte, au moins, on fait quelque chose de bien, de bon. L'impact d'honorer les mères, j'ai l'exemple qui me frappe le plus de ça dans la Bible, c'est quelqu'un qui a vu sa belle-mère tellement dans les yeux d'admiration qu'elle a honoré comme une mère. C'est Ruth, l'histoire de Ruth. Encore, ça me parle de la puissance, de l'influence de Naomi. Vous savez l'histoire, hein? Naomi et son mari Abimelech ont désobéi à Dieu. La loi de Dieu dit, vous n'irez jamais, vous habitez dans le pays de Moab, vous associez avec ces gens-là. Naomi et Abimelech vivaient à Bethléem, ça veut dire le pays de pain. Ça veut dire le lieu d'abondance. Le problème, c'est qu'il y avait une famine à cause des péchés du peuple. Dieu visitait, et même à Bethléem, il y avait de la famine. Puis, au lieu de demeurer et chercher la face de Dieu là, dans le lieu du jugement, Abimelech pensait faire meilleure affaire d'aller à Moab. Et c'est le désastre. Ses deux fils se sont mariés avec des femmes moabites. Donc, les Moabites, les gens de Moabite, avaient le dieu Moloch. Un dieu horrible qui demandait des sacrifices humains. Abimelech est mort, ses deux fils sont morts. Noémi est laissée avec ses belles filles. Et elle réalise, qu'est-ce que je fais là? Les nouvelles sont venues que Dieu avait visité le peuple et c'est le temps de retourner. Un veuve était sans soutien. Donc, elle dit, je vais au moins retourner, rentrer chez moi et peut-être je vais trouver la parenté. Et vous connaissez en route, elle dit à ses belles-filles, ça n'a pas de bon sens, avec la loi et les préjugés contre les Moabites, c'est pas une bonne chose que je vous amène chez moi. Donc, la belle-mère était veillante, bienveillante pour ses belles-filles. Elle les aimait. Il y avait quelque chose qui est arrivé dans cette famille que ces deux belles-filles étaient attachées à la belle-mère. Une plus que l'autre. Elle a persuadé la première de rentrer, mais Ruth a fait cette merveilleuse déclaration. Déclaration de foi et d'attachement comme fille. Hein? En Ruth 3:10, on lit, « Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il, ce que tu viens de faire. » Donc, elle est rentrée. Elle a dit même, « Je ne quitterai pas. Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. » Et là, tu vivras, je vivrai. Là, tu mourras, je mourrai. Donc, c'est un engagement à vie. Quel honneur pour une mère d'avoir une fille, une belle fille qui se voit comme une fille. Et là, en chapitre 3, on voit qu'elle a tellement honoré sa mère qu'elle a pris la voie d'humilité pour pourvoir à leurs besoins. Et là, elle reçoit les louanges de Boaz, son futur époux. Ça n'a pas passé inaperçu, cet attachement, cette façon d'honorer sa belle-mère. Et ça l'a permis pour Ruth d'entrer dans la lignée de Jésus. Jésus, pourtant, nous fait savoir qu'il y a une limite à l'honneur, le respect qu'on doit à nos mères. Comme d'ailleurs à tout être humain. Il y a un moment, il y a une place où le respect pour un être humain peut devenir une idolâtrie. Et c'est là que nous devons nous arrêter. Jésus a dit, en Matthieu 10, 37, « Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Attention, le respect qui devient une adoration tellement que Dieu se tasse devient une idolâtrie et devient négatif. Celui qui aime son fils et sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Cependant, quand on y réfléchisse, on ne peut pas réellement honorer quelqu'un ou aimer quelqu'un si on n'aime pas Dieu avec tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force. Si on veut vraiment aimer quelqu'un ou honorer quelqu'un, ça doit passer par la réalité que Dieu jette sur la situation. La relation avec Dieu. Donc, ce n'est pas une question de retirer quelque chose, c'est une question d'apprendre à le faire de la bonne façon. Paul le rappelle aux croyants, en terminant, l'importance du cinquième commandement. En Éphésiens 6:2, il le répète. « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel est le seul auquel une promesse est attachée. Une longue vie une vie heureuse. Dans tous les 10 commandements, c'est le seul qui vient avec une promesse directe avec ça. Oui, mes frères et sœurs, c'est une bonne chose de célébrer, d'honorer, de prendre au moins une journée où on le fait de la bonne façon et de dire à notre mère ce qu'elle représente pour nous. Quand nous sommes un enfant de Dieu, nous pouvons trouver, même pour les mères qui ont été les plus démunies comme mères, les plus croches, il y a quelque chose dans ce qu'on a entendu aujourd'hui que Dieu puisse nous donner pour dire avec vérité pourquoi nous pouvons respecter celle qui nous a mis au monde. J'ai assisté à 5 accouchements de mes 5 enfants. J'ai un énorme respect pour ce que c'est quoi d'être une mère, juste physiquement. J'ai assisté aux 9 mois de gestation et j'ai vu les sacrifices que ma femme a fait pour porter et donner vie à ses enfants. Juste ça, mes chers amis, si nous sommes au monde parce qu'on a tous eu une mère qui a fait cette entente volontaire ou non, de faire cette expérience avec Dieu et de donner sa vie pour nous, pour qu'on puisse venir au monde et vivre. Beaucoup plus d'entre nous ont eu une mère dans tous les sens, ou peut-être beaucoup des sens qu'on a vus ce matin. On a des raisons à dire, si elle est vivante encore, « Maman, tu es précieux. Ce que tu représentes pour moi, je veux me lever pour dire merci. » Et vous savez, ce genre d'honneur vaut beaucoup plus que des cartes et du bonbon sans sincérité. C'est certain qu'il va accepter le reste quand il y a une sincérité aussi. On peut gâter nos mères aussi. Mais honorer, c'est pas juste gâter. Honorer, trouvons une manière de dire avec vérité et sincérité ce que nous pouvons dire. Si la mère n'est pas là, peut-être l'écrire. Si elle est sur Facebook, tu peux le faire. Mais que Dieu nous donne le privilège et une façon pour le faire qui l'honore lui d'abord et la personne qu'il a utilisée pour nous amener dans le monde. Pour certains d'entre nous, on peut louer Dieu pour notre mère pour beaucoup plus d'autres raisons parce qu'elle a rempli les fonctions avec l'aide de Dieu qu'il a désigné pour le mère. Prions. Père Céleste, toi seul connais le cheminement de chaque personne ici assemblée. Et j'en suis sûr, Seigneur, que certaines peut-être ne connaissent pas même leur mère naturelle. Certaines ont connu des mères adoptives. Et peut-être ils sont capables d'être comme Ruth pour adopter leur mère adoptive et de le respecter comme une mère. Seigneur, je te loue que dans ta sagesse, tu as décidé que l'humanité vive de cette façon, que nous soyons tous enfantés d'une femme. Et ce matin, nous voulons te louer pour les mères qui sont représentées par cette assemblée. Nous te louons pour les mères qui sont parmi nous et les grands-mères. Merci pour les enfants. Nous te louons pour les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, mais qui ont cet instinct maternel, qui ont un cœur et qui sont capables de nourrir, de chérir, de consoler les autres. Seigneur, je te loue parce que ce sont des caractéristiques qui te ressemblent et qui viennent de toi. Amen.